Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h43, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin le professeur de virologie au CHU de Lyon et membre du conseil scientifique Bruno Lina.
Bonjour Bruno Lina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Lyon ce matin sur RTL. Bruno Lina, les maternelles et les primaires vont donc rouvrir comme prévu lundi. Nous sommes toujours à un niveau de contamination de 33 000 par jour. En Angleterre, les écoles ont certes rouvert, mais c'était avec un taux bien moindre. Est-ce que c'est bien prudent pour vous d'ouvrir les écoles dès lundi? Il y a beaucoup de parents et d'enseignants qui nous écoutent et qui sont inquiets.
Alors, il existe déjà des protocoles pour freiner les chaînes de transmission dans les écoles, mais il y a une vraie question qui se pose, qui est le fait que depuis qu'il y a une épidémie avec le variant britannique, on s'est rendu compte qu'à la différence des virus précédents, ce virus est transmissible entre enfants. Et donc, il faut prendre un certain nombre de précautions additionnelles, et c'est pour ça que éventuellement des protocoles additionnels de surveillance, à la fois chez les enfants et les enseignants, peut-être proposé. On a fait ça dans un certain nombre de lycées, d'écoles et de collèges en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce que l'on a vu, c'est que il y avait de temps en temps, dans la plupart des écoles, il n'y a pas d'infection. C'est des prélèvements PCR que l'on fait sur de la salive. Et on se rend compte que de temps en temps, par contre, il y a des petits foyers. On a jusqu'à 5% des enfants qui sont infectés et qui présentent souvent une absence de symptômes. Une infection asymptomatique. Et donc, il faudrait faire des dépistages réguliers.
Et c'est-à-dire réguliers, Brunelina, c'est-à-dire des tests salivaires tous les jours, tous les deux jours pour les enfants?
Alors, il y a différents schémas qui sont proposés. Si on suit un petit peu ce qu'ont fait, par exemple, les Autrichiens, ils font ce qu'on appelle des auto-prélèvements deux fois par semaine. Et comme cela, ils ont réussi à empêcher que l'épidémie, qui a repris dans leur pays aussi, touche les écoles. Et ils sont avec le même virus que nous, mais grâce à ce dépistage régulier, ils arrivent à enlever les enfants avant qu'ils soient symptomatiques, avant qu'ils soient contagieux. Et donc, ça casse les chaînes de transmission au sein des écoles. Et c'est assez performant.
Donc, il faut le faire très régulièrement, si je vous entends bien. Il faut le faire, ces tests, très, très régulièrement.
Il y a deux possibilités. Ça a été travaillé en termes de modélisation, soit deux fois par semaine, soit une fois par semaine.
Deux fois par semaine ou une fois par semaine. Et puis, il y a donc les levées de restrictions de déplacement à venir, fin de la limite des 10 km le 3 mai, réouverture des terrasses mi-mai. Là aussi, on s'interroge, Bruno Lina, on devrait être à 20 millions de primo-vaccinés mi-mai, mais est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour aller manger au restaurant ou boire un verre en terrasse dès la mi-mai?
Alors, vous savez que c'est des décisions qui relèvent du politique et que je ne commente pas les décisions qui relèvent du politique. Donc, il y a un choix qui a été fait. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'immunité collective, il y a à peu près maintenant 14 millions, un peu moins de 14 millions de Français qui ont reçu une première dose. Donc, on est aux alentours de 18% de vaccinés. Il y a probablement à additionner à ces 18% de vaccinés entre 20 et 25% des Français qui sont immunisés du fait d'une infection passée. Donc quand on fait l'addition, ça fait moins de la moitié des Français. Et ce que l'on sait, c'est que le moment où on voudra vraiment pouvoir parler du temps d'après, c'est quand il y aura 85 à 90, voire 100% des Français.
85 à 90, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on pourra avoir une immunité collective et respirer, quoi, en fait.
Qui freine régulièrement. Mais ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est le chiffre de 100%. C'est-à-dire qu'on a affaire à un virus pandémique. Immanquablement, soit on va avoir été, d'ici deux ou trois ans, soit on va avoir été infecté par ce virus, soit on aura été vacciné. Mais il n'y aura pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne qui n'aura été ni infecté ni vacciné. C'est pas possible. Donc ça veut dire que ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils peuvent échapper à la fois au virus et au vaccin, c'est un virus pandémique, il va diffuser vers tout le monde. Et donc, on a intérêt collectivement à ce que cette vaccination continue à avoir l'adhésion qu'elle a pour qu'on ait une immunité collective qui, le plus rapidement possible, franchisse le seuil qui nous permette collectivement de nous protéger et d'éviter des vagues épidémiques.
Donc, vous dites différent, l'immunité, il faut aller au-delà des 70% dont nous parle Thierry Breton, par exemple. Il faut viser les 100% parce que sinon on ne va pas se débarrasser de ce virus d'ici 2 à 3 ans, vous nous dites, pas avant 2 à 3 ans.
Alors en fait, je vais être encore plus pessimiste que ça, on ne s'en débarrassera pas de ce virus, mais il va rester avec nous, mais il va évoluer et il ne donnera plus à terme de forme grave, parce qu'il va évoluer vers probablement moins de virulence. Mais
d'ici pour
l'instant,
on n'est
pas... Je ne sais pas, ça va prendre plusieurs années. C'est ce qui s'est passé avec d'autres coronavirus qui ont émergé au cours du 19e siècle. Ces virus ont été responsables d'une pandémie et maintenant ils donnent des rhumes banaux. Donc il est très probable que ce virus suivra exactement le même chemin. Le calendrier qu'il prendra pour le faire, personne ne le sait.
Et alors pour la vaccination, justement, vous en parlez, vous incitez les Français à se faire vacciner. Est-ce qu'il faut, sur l'AstraZeneca, il y a beaucoup de méfiance. Est-ce que, comment on fait pour réconcilier ce lien entre les Français et l'AstraZeneca? Et puis du coup, est-ce qu'il faut ouvrir la vaccination à ceux qui le souhaitent en dessous de 55 ans quand il y a de l'AstraZeneca disponible, ce qui est le cas?
Alors, de nouveau, ça, c'est un choix politique. Mais je peux vous parler de l'AstraZeneca en termes de vaccin et de sécurité. Le vaccin aujourd'hui, on a des données de pharmacovigilance qui sont extrêmement précises en France et c'est vraiment un atout que l'on a. Ça permet de définir exactement le niveau de risque que peut avoir éventuellement les personnes qui se vaccinent. En sachant que quand on parle de risque, derrière, on est obligé de parler de bénéfices. Et vous avez eu, je crois, on a des commentaires incessants sur les Covid longs qui sont fréquents. On a des gens qui sont dans les réanimations. Ce ne sont pas des gens qui sont vaccinés. Ce sont des gens qui ont attrapé la maladie. Et aujourd'hui, si on a un nombre de décès, un nombre de patients en hospitalisation, c'est bien à cause du virus. Or, le meilleur outil qu'on a contre le virus, c'est le vaccin. Et c'est vrai que le vaccin AstraZeneca a montré son efficacité, à la fois en Europe et puis dans d'autres pays. Il a besoin d'être utilisé de façon précautionneuse. Certaines tranches d'âge ne devraient pas, de façon à diminuer le risque, être vaccinés par ce type de vaccin, ce vaccin adénovirus. Mais malgré tout, il apporte un atout considérable, à la fois individuel et collectif. Et on est en train de comprendre ce qu'il faudrait faire au moment de l'administration de ce vaccin pour éviter les effets secondaires que l'on a vus.
Très rapidement, est-ce qu'on entend dire que l'alliance AstraZeneca en première dose et Pfizer en deuxième serait la meilleure combinaison possible? Est-ce que c'est vrai, professeur Nina?
Alors, moi, je ne sais pas si c'est la meilleure combinaison possible. En tout cas, c'est le schéma de vaccination qui va être proposé aux personnes qui ont reçu la première dose AstraZeneca, mais qui ne sont plus éligibles à ce vaccin. Et va y avoir aussi de la surveillance qui va être faite pour vérifier que le niveau d'immunité obtenu avec ce schéma vaccinal atypique... Eh bien, il est aussi bon. A priori, il n'y a pas de raison, mais des études sont faites à la fois en Europe et ailleurs pour vérifier que ça protégera bien comme il faut. Voilà. Et effectivement, c'est un schéma vaccinal qui semble adapté.
Alors, nous restons, ceux qui nous écoutent, et nous-mêmes ici en studio, très inquiets par les variants, Bruno Lina. Voilà maintenant le variant indien, un double mutant. Vous imaginez, c'est vrai que ces mots nous font trembler. Alors, est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce qu'il est déjà présent en France?
Alors, pour l'instant, nous ne l'avons pas détecté en France, mais il est présent en Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique. Et puis il est présent au Canada, il est présent en Australie, il est présent à Singapour, enfin il est présent dans de nombreux pays. Mais en très petite quantité, puisque les Anglais ont moins de 100 cas. Et ils ont des liaisons très étroites avec l'Inde. C'est assez normal que ça commence par la Grande-Bretagne. Alors, vous avez raison, appeler ce variant double mutant, ça fait penser à un variant 2.0, quoi. C'est-à-dire le variant d'après. Ouais. Non, on l'appelle double mutant parce qu'en fait, il comporte deux mutations. Alors, c'est un peu technique, mais une qui permet un petit peu d'échapper à la réponse immunitaire, c'est une mutation sur la protéine S qui est en position 484, et une deuxième qui augmente un petit peu la transmission, qui est une autre mutation de la protéine S en 452. Or, ces deux mutations, on les connaît. On les a déjà vues dans d'autres virus, mais elles n'ont jamais été associées ensemble. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé double mutant.
Mais il vous inquiète ou pas, vous?
Alors, personnellement, moi, il ne m'inquiète pas parce que je suis vacciné, mais sinon... comment dire, ce virus circule chez les Indiens. en même temps que le variant britannique. Or, la reprise épidémique en Inde, elle est due à l'introduction du variant britannique. Elle n'est pas due à l'émergence de ce virus. Et conjoncturellement, dans une des provinces indiennes, ce virus est apparu et il apparaît de nouveau dans un contexte où il y a une épidémie massive. Et vous savez que plus vous avez de personnes infectées, plus vous allez générer de virus et plus vous avez le risque de générer des virus. Donc pour l'instant, les premières données qu'on a de la part des Indiens, c'est que les vaccins protègent contre ce virus, donc ça n'est pas un variant d'échappement. La deuxième chose, et on devrait avoir des informations plus précises, il ne semble pas que ce virus remplace le variant britannique, il co-circule avec lui un petit peu moins, et il fait finalement partie de l'ensemble des lignages qui émergent en ce moment et qui présentent un certain nombre de caractéristiques communes, notamment cette fameuse mutation en 484, puisqu'on voit que pratiquement tous les variants que l'on voit aujourd'hui émerger dans le monde présentent cette mutation.
Mais donc, et vous, craignez, vous pensez qu'il va tout de même arriver en France ? C'est inévitable ou pas ? Puisqu'il vous dit qu'il n'est pas très loin de nos frontières.
Alors, il arrivera peut-être ou probablement en France, je ne sais pas. Vous savez, quand on fait les enquêtes flash en France, on détecte une vingtaine de lignages différents. On ne va pas vous parler des 20 variants qui circulent en France, parce que ça n'aurait pas de sens. Mais ce qui est important de savoir, c'est est-ce que ce variant est un problème ou pas. Ce n'est pas tellement de savoir s'il circule ou pas. C'est est-ce qu'il est un problème ou pas. Et apparemment, jusqu'à présent, les informations que l'on a sont soyons vigilants, vérifions que, a priori, il n'est pas un problème. Vérifions-le avant de pouvoir l'affirmer de façon certaine.
Bruno Lina, vous nous disiez que vous ne prenez pas de décision politique. On est juste surpris que le Conseil scientifique n'ait pas donné son avis sur ce déconfinement à venir. Est-ce que ce n'était pas votre rôle ? Parce qu'on est quand même à 33 000 cas aujourd'hui, je le disais, et le gouvernement fixe le cap de 20 000 cas par jour d'ici un mois pour donc lever les restrictions. Mais votre rôle, vous, de Conseil scientifique, c'est normalement de donner votre avis. Et là, on ne vous a pas entendu, on n'a pas entendu M. le Défrécy depuis un certain temps. Le gouvernement décide seul.
Alors, on travaille sur un document actuellement, justement pour essayer d'anticiper un petit peu les étapes qui sont devant nous, en nous projetant sur le moyen, le court, le moyen et le long terme. Parce qu'on est obligé de regarder aussi, essayer de commencer à expliquer et à imaginer ce qui pourra se passer en septembre
En
novembre.
D'accord.
On essaye d'anticiper.
Et il faudra vacciner dans votre scénario. Il faudra à nouveau vacciner cet hiver.
Alors, ça va dépendre de données que je n'ai pas. Parmi les différents scénarios qui sont imaginés, il y a des scénarios qui sont des scénarios favorables et puis des scénarios que j'appelle les scénarios du pire, où tout se passe mal. En fonction, il peut être nécessaire de faire une troisième injection d'un vaccin, qui peut être un vaccin pour les variants, on peut avoir une absence de circulation massive des variants du fait de l'immunité collective qui est obtenue rapidement en sortie d'été. Et à ce moment-là, si en même temps que cette immunité collective, on se rend compte que les vaccins induisent une immunité longue, c'est-à-dire que la protection persiste au-delà de 6 mois, voire 1 an, eh bien à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de revacciner.
Vous rendrez vos conclusions quand, celles sur lesquelles vous êtes en train de travailler là,
Je ne sais pas.
Juste une dernière question, parce que les Français qui nous écoutent pensent aux vacances, vous avez parlé de l'été. Est-ce que vous dites aux Français, vous pourrez partir à l'étranger cet été, vous pouvez prendre des billets, ou alors c'est un nouvel été où il faut rester prudent et peut-être rester dans l'Hexagone ?
C'est deux questions différentes. C'est-à-dire, faut-il rester prudent pendant cet été ? La réponse est oui.
Faut-il partir ?
La réponse
alors,
est oui, rapidement. Parce que... Peut-on alors partir ? Après... C'est pas à moi de décider s'il faut qu'ils partent. En pratique, il y aura des règles qui seront appliquées.
Qu'est-ce que vous diriez à vos amis, en fait, Bruno Lina ? Est-ce que vous leur dites...
Je leur dis très simplement, si vous partez en vacances, quel que soit le lieu où vous partez, continuez à utiliser les mesures barrières et les mesures d'hygiène. Elles valent aussi bien en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne qu'en France. Ça marche pareil. Donc c'est beaucoup plus le comportement qui compte que l'espace. Après, si on se rend compte qu'il y a un endroit où le virus circule de façon abondante, peut-être qu'il vaut mieux l'éviter.
Merci beaucoup Bruno Lina, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée à vous. Et dans un...